Vous vous sentez comment ?
Obsessionnel. J'ai passé une semaine épouvantable. L'audience a lieu vendredi prochain et je ne pense qu'à ça. Je tourne en vase clos. Je finis par m'observer devant mes patients, à m'écouter. Un comble. Si je fais pas d'erreur, si je prononce pas la parole de trop. Entre l'une, une ancienne patiente qui revient et me demande des comptes, et Alain, dont je vous ai parlé, ce chef d'entreprise, et qui me paie au résultat. J'ai l'impression qu'il m'évalue. C'est simple.
Vos craintes sur sur ces inclinaisons suicidaires se sont confirmées ?
C'est plus compliqué que ça. Son employé qui s'est jeté par la fenêtre, cette femme, le replonge dans un autre saut. La mort accidentelle de son frère lorsqu'il était enfant. Il m'en a parlé cette semaine. Ces deux sauts se répondent à plus de 50 ans d'écart. Cette foutue culpabilité de celui qui reste. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on me fait subir ? C'est une humiliation. C'est, à la fin, ça n'est que ça. J'en ai marre, moi, de tout ça. Vous comprenez ? J'atteins mes limites, là, avec cette histoire. J'ai reçu un courrier du Conseil de l'Ordre. Ils prennent acte du déroulement de la procédure. Et ils se disent très attentifs au procès. Ils vont finir par me convoquer, eux aussi. Je me sens coincé. J'ai peur de ne plus pouvoir exercer. Ça fait 4 ans que je dois me défendre. Cette procédure me coûte une fortune. J'aurai bientôt plus d'argent pour me battre. Je perdrai la maison du Pré Saint-Gervais et tout ce qui me reste après la pension alimentaire.
Vous êtes divorcé ?
Oui, depuis 3 ans. Alors je me dis qu'ils peuvent me radier. Ils peuvent me prendre mon cabinet. Je risque une interdiction temporaire, voire définitive d'exercice. De toute façon, ils sont pas très courageux, ils suivront la décision judiciaire. Double peine.
Qui ça, ils ?
Le Conseil de l'Ordre. Ils vont m'enlever mon divan, c'est dommage, parce qu'il est confortable. Il est bien pratique, on y dort très bien.
Vous dormez dans votre cabinet ? Sur le divan ?
Oui, ça m'arrive, oui. Souvent, en vérité. Je déteste la chambre. J'ai perdu l'habitude de vivre seul. Ça m'angoisse, illico. C'est la première fois que je vis seul depuis... presque 60 ans. Vous rendez compte ? J'ai rêvé de vous.
Tiens.
J'avais 10 ans et je venais à une séance en slip. Je crois qu'il y avait mon père. Pas sûr. Et il y avait aussi une femme qui s'est moquée de moi. Bon, c'est assez commun, hein, comme rêve. Ça.
Continuez. Dites ce qui vous vient.
La femme que j'ai rencontrée dans votre salle d'attente juste en sortant. Une coïncidence complètement folle. Vous savez, elle attendait sa séance. Je l'ai reconnue à son rire. Je l'avais pas vue depuis, je sais pas, de 30 ans. Ni plus ni moins mon premier amour. Là, à côté, dans la salle d'attente. Consultant les mêmes psy.
Oui, Rebecca Morel.
Je savais pas qu'elle s'appelait Morel. Moi, je l'appelais Rebecca Wagner. Elle a dû vous dire qu'on se connaissait. Vous la suivez depuis longtemps.
Pourquoi ne pas lui demander ?
Bien sûr. Enfin, je demandais juste si ça faisait longtemps. Enfin, je vous demande rien.
Mais moi, je vous demande. Pourquoi vous me parlez d'elle ?
Je sais pas comment c'est venu. De quoi parlait-on déjà ?
De la solitude du psy divorcé qui dort sur le divan de ses patients. Et vous me racontiez votre rêve.
Ah oui, c'est ça. Bah, ça m'est venu comme ça. Ça remonte à loin. On s'est connus quand on était ados. Adolescents. C'était ma voisine. Nous étions amoureux.
Continue.
Ça a été la période la plus désespérée de ma vie. Et pourtant, grâce à elle, ça reste aussi le moment le plus lumineux, intense, excitant. Je dirais même simplement vivant. En fait, le plus heureux de ma vie. Mais elle vous en a sans doute parlé, non? Elle peut pas ne pas l'avoir évoqué au moins une fois. Enfin, pardon, la question n'est pas là.
Non, elle n'est pas là. Pourquoi vous parlez de la période la plus désespérée de votre vie?
Mon père a quitté la maison quand j'avais 12 ans. Il est parti avec une patiente et ça, ma mère l'a jamais accepté. Elle s'est enfoncée dans une profonde dépression. Elle s'est suicidée 10 ans plus tard. À l'époque de la séparation de mes parents, les Wagner ont emménagé et j'ai rencontré Rebecca. On avait 12 ans. On est devenus inséparables jusqu'au Noël de nos 15 ans. Première tentative de suicide de ma mère. Après, plus rien n'a été pareil. Voilà. Vous savez maintenant qui est Rebecca Wagner. C'est loin de ce qui m'amène ici. Je pense pas que évoquer le suicide de ma mère soit particulièrement approprié.
C'est vous qui l'avez abordé?
Non, je parlais de Rebecca, que j'ai rencontrée par hasard dans votre salle d'attente. Rien d'autre.
Rien d'autre?
Je ne cherche pas à entrer en analyse. C'est pas du tout le moment.
Mais vous n'aviez peut-être pas l'intention d'aborder le suicide de votre mère, mais vous l'avez fait. Alors, si vous avez commencé, continuez. On a encore un peu de temps.
J'étais le pauvre gamin, au père absent, la mère pathétique. Rebecca et ses parents sont devenus un peu une famille pour moi. La mère de Rebecca était forte, optimiste. Elle s'occupait de sa fille, faisait attention à moi.
Pas comme votre mère?
Non, pas comme ma mère. Ma mère, elle pouvait plus rien faire. Elle restait allongée des heures sans bouger. Ma mère, elle coulait. Et entraînait toute la maison avec elle.
Vous disiez que tout a changé après le Noël de vos 15 ans. La nuit de la première tentative de suicide de votre mère.
Rebecca est venue me chercher pour le réveillon. Ma mère dormait, je me suis dit que je pouvais la laisser. Je suis monté chez Wagner. C'est là-bas que j'ai bu ma première coupe de champagne, ma première cuite. Rebecca et moi, on est allés dans sa chambre. Je crois que c'est là que je suis tombé amoureux d'elle. Je la trouvais. Je n'avais jamais été avec aucune autre fille. Et elle non plus n'avait connu aucun garçon. Puis ça s'est arrêté là.
Dites.
J'avais laissé ma mère sans surveillance depuis le début de la soirée. J'ai eu peur qu'elle se réveille sans savoir où j'étais. Elle pouvait avoir des réactions terribles, imprévisibles. J'ai eu comme une intuition. J'ai laissé Rebecca, je suis redescendu chez moi en courant. Et après, c'est plus confus. J'arrive pas à m'en souvenir. J'ai trouvé ma mère inconsciente par terre.
Comment vous avez réagi?
Je sais plus. Je suppose que j'ai paniqué, j'étais seul. Il fallait décider. J'ai cru que... qu'elle était morte. Après, tout est confus, brouillé. J'ai dû sûrement appeler les pompiers, je me souviens pas du trajet jusqu'à l'hôpital. Entre le moment où j'ai quitté la chambre de Rebecca et celui où je me suis retrouvé dans le couloir de l'hôpital, c'est... Je peux pas. J'ai essayé, mais je peux pas. C'est comme si ça avait été effacé. Vous me direz qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ça, c'est assez courant même. Une perte de mémoire dans un moment où le réel n'est plus acceptable, c'est...
Oui, mais c'est sans doute pour ça qu'il faut le revisiter, insister.
Si j'étais psy, je dirais qu'il faut que je travaille sur cette soirée, oui. J'ai jamais pu me défaire de l'idée que si j'étais resté avec elle, elle n'aurait pas tenté de se suicider. J'étais absent, en train de m'amuser. Elle a choisi ce moment-là. Plus tard, les médecins l'ont diagnostiqué comme bipolaire. Vous savez, on disait avant syndrome maniaco-dépressif. C'était la plus importante nuit de ma vie. Tout aurait pu être différent. Ma vie aurait pu être différente.
Qu'est-ce qui aurait pu être différent?
Je sais que ça peut paraître enfantin, mais j'ai cru et je crois toujours que cette nuit-là a déterminé nos destins. Le mien, peut-être même celui de Rebecca, et celui de ma mère.
Vous vous reprochez sa mort?
Cette nuit-là, j'étais pas là avec elle. C'est là que tout a commencé. Et après, le reste a suivi. Les crises, les séjours en clinique, les hôpitaux, enfin tout le reste.
Attendez, si je comprends bien, vous avez 15 ans, votre mère tente de se suicider, votre père est absent, et c'est de votre faute.
Mais si mon père avait été là, il n'y avait personne d'autre pour s'occuper d'elle. C'est un fait. Je suis parti ce soir-là, j'ai laissé tomber.
Écoutez, j'imagine que vous avez dû passer pas mal de temps là-dessus avec Esther Gaget. Mais quand j'écoute votre récit, ce dont j'ai l'impression, c'est plutôt que votre mère vous a puni de l'avoir négligée. Elle vous a fait comprendre de quoi elle était capable, si vous l'ignoriez.
Attendez. On est à côté de la plaque, là. Je veux bien qu'on se mette à parler, enfin qu'on se mette à ressortir tous les squelettes du placard.
Les squelettes? Écoutez, je suis perplexe. D'un côté, vous dites que vous ne voulez pas faire une analyse, et dans le même souffle, vous évoquez des éléments très intimes qui semblent encore vous travailler. Alors, je ne sais pas à quelle demande je dois répondre.
Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé à parler de ma mère.
C'est la première fois qu'un patient me dit ça.
Mais je ne suis pas votre patient.
Je sais, mais vous en avez parlé, alors. Vous ne faites aucun lien entre le suicide de votre mère et la mort d'Adèle Chiban.
Pardon ?